Bernard de Biasi, nous t'écoutons sur le processus symbolique.
Oui, le processus symbolique, c'est un titre qui est un peu mystérieux, qui voulait s'articuler aussi au propos de Gisèle Séjinger, symbolisation, désymbolisation, resymbolisation. Et par rapport à cette question technique, abstraite et fondamentale de la symbolisation et de la désymbolisation, je voudrais un petit peu cadrer le propos sur le symbole d'une manière large. Alors, d'abord, je rappelle que l'ensemble du séminaire est situé dans le cadre du projet de recherche Fractal, qui étudie les relations de Flaubert avec la mythographie allemande et son rôle dans le transfert culturel entre l'Allemagne et la France, dans le cadre de son travail sur l'Antiquité, les religions, etc. C'est donc vraiment du côté des religions que je vais essayer de poser la question, mais d'une manière peut-être un petit peu irrévérencieuse apparemment, c'est-à-dire en essayant de comprendre ce que le rapport de Flaubert à la religion peut avoir de relation avec la superstition. D'abord, laissez-moi placer ce propos sous l'autorité de deux personnes qui ont joué un rôle très important dans ma vie flaubertienne, qui sont mortes toutes les deux, et qui sont Franck-Paul Baumann, qui était le grand spécialiste de l'histoire des religions au XIXe siècle en littérature française, professeur à l'Université de Pennsylvanie, et Jacques Sébachère, qui était mon directeur de thèse, qui était le premier probablement à avoir insisté en critique sur l'importance du rôle de Michelet et de la question de la désymbolisation dans les études romantiques. Je reviens d'ailleurs depuis peu de Philadelphie, où j'ai fait une conférence en hommage à Franck-Paul Baumann. Une partie de ce que je vais vous dire ce matin vient des propos que j'ai présentés à l'Université de Pennsylvanie sur cette question qui était véritablement directement un hommage à son travail. Alors, j'ai donné un résumé pour cet exposé. Je le reprends pour un peu cadrer le propos et essayer aussi de lui rendre la perspective génétique que peut-être je n'ai pas assez marquée dans le résumé. Je disais, Flaubert cherche à jeter les bases d'un art scientifique, mais sa correspondance abonde en remarques sur le symbolisme des coïncidences, au point qu'on peut se demander sérieusement si l'écrivain n'a pas une certaine tendance à la superstition. Je crois que oui, en effet. D'un autre côté, tout en se déclarant passionné par l'histoire des religions, et même mystique, Flaubert se déclare volontiers incroyant. Tout en revendiquant le vrai, son esthétique repose sur une théorie de la croyance, un culte de l'invisible, et une sorte, au fond, de recyclage profane du sacré. Ce sont des contradictions, et des contradictions actives, et on peut se demander en quoi ces contradictions peuvent nous éclairer, nous aider à comprendre le sens du processus symbolique tel qu'on le voit à l'œuvre dans l'écriture de Flaubert. Dans le deuxième moment de ce résumé, j'essayais de préciser en quoi le sens premier de symbole, vous savez qu'un symbole, donc l'étymologie grecque, est un signe de reconnaissance formé par les deux parties, les deux moitiés d'un objet brisé en deux que l'on rapproche. En quoi donc ce sens premier nous informe sur la façon dont Flaubert a repris à son actif littéraire ce processus symbolique. J'insistais sur l'idée de fracture ou de déliaison qui fait de la vérité un problème chez Flaubert et de la signification l'effet heuristique d'un travail de décryptage pour le lecteur. J'insistais aussi sur l'idée que c'est donc le lien, le rapprochement des deux morceaux, le lien, d'une certaine façon le religio, qui induit le sens en fabriquant du nous. Et enfin, j'insistais sur l'idée que le symbole, comme processus même de l'écriture, de l'œuvre, habite en effet cet entre-deux de la langue et de l'image, où réside la représentation, et que par conséquent, il est peut-être à comprendre comme un hiéroglyphe. Alors, déjà revenons un instant sur cette idée première d'objets brisés en deux que l'on rapproche comme un signe de reconnaissance. Ça nous informe peut-être sur l'idée qu'il y a au cœur du symbole quelque chose qui a rapport avec l'amour. Au fond, le symbole, symbolein, est très proche du mythe platonicien de l'âme coupée en deux qui se retrouve, au point que les deux sexes, l'un dans l'autre, ne formant plus qu'un nouvel être, ce nouvel être est hermaphrodite. C'est le grand mythe de l'amour. Chez Platon, je crois que l'amour est au cœur de cette question du symbole. Mais cette histoire de rapprochement des deux bords, de fêlure et d'objet reconstitué ne peut pas ne pas rappeler à un lecteur de Flaubert la théorie du mur. Vous vous souvenez, cette lettre de l'époque de l'écriture de Trois Contes, d'ailleurs, où Flaubert se rappelle l'impression formidable que lui avait fait un petit mur tout nu quand on monte vers l'Acropole en Grèce, à Athènes, un mur dont la beauté tient au fait qu'il est à la fois une totalité, une sorte de surface plane, et constitué néanmoins de fragments tellement proches les uns des autres que c'est un tout fabriqué de fragments rapprochés, un mur symbolique, quoi, et néanmoins un mur non représentatif. Il n'y a pas de figuration sur ce mur. Au fond, ce qui est compliqué dans le symbole, c'est que personne ne sait ce que c'est. Personne ne sait ce que ça veut dire réellement. Il y a beaucoup de définitions du symbole. Ces définitions, beaucoup travaillées au XIXe siècle, ont été enrichies au XXe siècle par la psychanalyse. Mais aucune définition n'est suffisante. Aucune. Et peut-être qu'il en va du symbole comme du mythe, c'est-à-dire qu'il s'agit de quelque chose qui est là lorsque on ne peut pas faire autrement, quelque chose au fond qui excède le concept, profondément. Et pourquoi ?
Parce que
le symbole est nécessairement lié à l'image. Et le symbole, étant lié à l'image, est lié au caractère non totalisable des significations dérivées de l'image. Le lien entre le mot et l'image va servir à resserrer le nombre infini d'associations possibles du sens, mais les resserrer seulement. Il y a toujours l'infini derrière. Au fond, le symbole, le processus symbolique, c'est ce qui nous parle de l'indisable, de l'indicible. Et d'une certaine façon, c'est un modèle, effectivement, pour ce que rêve Flaubert comme nouveau statut de l'œuvre, quelque chose dont on ne pourrait pas faire le tour des significations. Une sorte de machine à fabriquer du sens indéfiniment. Alors, je disais, tous ces points de vue, excusez-moi pour ces préliminaires un peu longs, mais doivent être quand même pour nous ramenés aussi, rapportés au champ de l'approche génétique. Et je crois que ici, on trouve en effet des éléments assez intéressants. Lorsque je disais que peut-être le symbole, le processus symbolique à l'œuvre dans l'écriture de Flaubert, nous invite à penser le sens comme un hiéroglyphe, je veux dire, comme l'articulation de l'image et du signe écrit autour de l'idée de sacré. C'est de ça qu'il va être question. Qu'est-ce que c'est que ce sacré, ce rapport à la religion de la part d'un incroyant? Et qu'est-ce que c'est que ce « nous » que fabrique le symbole, ou ce hiéroglyphe de l'œuvre, ce « nous » qui est un « nous » d'exclusion, puisqu'il s'adresse à un tout petit morceau, une toute petite partie du lectorat possible. Et pourtant, le symbole, c'est ça. c'est ce nous. Mais c'est ce nous d'une société secrète. Signe de reconnaissance entre deux personnes qui doivent se reconnaître comme appartenant à la même famille sans se connaître, c'est vraiment dans l'espace de la société secrète. Alors, pour le généticien, comment les choses se présentent? Au fond, le processus symbolique, il est à l'œuvre partout, dans la genèse de l'œuvre, et au premier chef, dans l'initial de ce processus, dans la conversion première, la conversion pré-scénarique du lu en vu. Au moment de la rêverie pré-scénarique, au moment où Flaubert commence par ne pas écrire, mais par rêver, de quoi s'agit-il si ce n'est précisément du symbole, du processus symbolique de production de flux d'images qui rassemble tout le savoir, toute l'émotion du savoir, dans une sorte de film préalable à partir duquel le scénario va s'écrire. Mais le processus symbolique accomplit la conversion suivante, qui est celle du vu en scriptible dans la rédaction. Et enfin, on pourrait dire, il y a à l'horizon de tout cela une troisième conversion, celle de l'écrit en visible, qui restitue à l'origine visuelle du fantasme sa possibilité d'être transmis au lecteur, dans une réception anticipée par la Genèse. Et cette conversion de l'écrit en visible, c'est la capacité du texte à devenir une partition, la partition d'un rêve qui va être la lecture. Il y a trois outils pour cela: le fantasme, la plume et la voix. Alors, je vous propose deux moments de réflexion sur l'ensemble considérable de ces questions. Un point sur la superstition et la religion chez Flaubert, et puis quelques exemples, si on a le temps, empruntés à la légende de Saint-Julien l'Hospitalier, pour mesurer dans le détail certains mécanismes de ce processus symbolique. Flaubert était-il superstitieux ? Oui, un peu, et même beaucoup, mais pas du tout à la manière de ses contemporains, les contemporains qui donnaient dans le spiritisme, vous vous souvenez, et dans les tables tournantes. Il est très critique vis-à-vis de Victor Hugo et de tous ses contemporains qui font tourner les tables. Il y a une quantité magnifique de citations possibles, je les passe. Non, il est superstitieux plutôt au sens de l'augure, au sens des anciens, et au fond, peut-être autant, en même temps, au nom de l'inconnaissable, comme pouvaient y inviter les sciences contemporaines, qu'il connaît bien, superstitieux au sens où les sciences nous montrent de l'inconnaissable, nouveau, vis-à-vis duquel il serait sot d'être autre chose que couvert à l'inconnu, au mystère. Alors, Flaubert se trouble de certaines coïncidences, il croit aux signes, il croit aux rêves prémonitoires, il se méfie terriblement des mauvais jours. Par exemple, rien de vraiment bon ne peut vous arriver le mardi, c'est sûr, dans la vie, pas plus que dans les fictions. C'est Pierre Dumayet qui l'a montré, le mardi, tout va mal. Et il est vraiment superstitieux. À l'une de ses correspondantes favorites, il écrit un jour, avec une réelle inquiétude, « Le verre de votre portrait accroché dans ma chambre sur une porte s'est fêlé ces jours-ci. J'ai de ces superstitions. Vous est-il arrivé quelque chose ?» C'est Mademoiselle Laurier de Champy, qui était une bonne correspondante pour ça, parce qu'elle est un peu spéciale. Au moment de s'embarquer en Orient, pareil, il dit à sa mère, pour la rassurer, « Dans la cour de la diligence, nous avons trouvé Pradier qui s'est écrié, il faisait un très beau soleil, fameux, savez-vous que j'ai vu ce matin, ce que j'ai vu ce matin à mon baromètre, beau fixe, c'est bon signe. C'est bon signe, je suis superstitieux, ça m'a fait plaisir, etc. » Et on peut trouver comme ça dans la correspondance un nombre considérable d'aveux de superstition. « Je suis superstitieux. » Il y a un autre cas intéressant, c'est la manière dont Flaubert utilise la superstition pour s'excuser auprès de Louise Collet du fait qu'il ne lui a pas dit au revoir avant de partir en Orient. Et alors, voilà ce qu'il lui dit. « J'ai toujours détesté les choses solennelles. Nos adieux l'eussent été. Je suis superstitieux là-dessus. Jamais, avant d'aller en duel, si j'y vais, je ne ferai mon testament. Tous ces actes sérieux portent malheur. Ils sentent d'ailleurs la draperie. J'en ai eu à la fois peur et ennui. Donc, quand j'ai eu quitté ma mère, j'ai pris tout de suite mon rôle de voyageur. Tout était quitté, j'étais parti. » En fait, bon, évidemment, il s'agit d'un argument un peu fabriqué pour Louise, mais je crois qu'il y a quand même réellement ici quelque chose d'intéressant à retenir, c'est cette méfiance de la draperie et de la pose, de la convention, cette méfiance de l'esprit de sérieux. Ce sont des choses qui portent malheur. Ce sont des choses qui portent le malheur et la mort. Et au fond, il n'en va pas autrement des idées toutes faites, des façons de penser ou de parler obligées, la bêtise tue pour de bon. Et on a droit de lui opposer le pressentiment, la superstition, la conduite, même la plus fantasque, par simple mesure de précaution. Alors, qu'en est-il de cette fascination de Flaubert pour l'irrationnel, pour le rêve, la logique du rêve? C'est pas naturellement seulement quelque chose qui relève d'une résistance à l'esprit de sérieux. Non, c'est que les coïncidences pour Flaubert sont l'espace d'un défi pour la pensée. Peut-être faut-il voir dans la superstition, au fond, quelque chose comme le fondement même du sentiment religieux et de l'inspiration poétique. On va le voir, c'est presque une théorie chez Flaubert, ce qui donne sa profondeur à l'immanence. Quand Flaubert en fera la théorie, ça sera en rejetant dos à dos spiritualisme et matérialisme. Mais en restant à l'échelle de sa propre existence, de son expérience du bizarre, de l'insolite, comment Flaubert cherche à comprendre le hasard? Est-ce que le hasard, la coïncidence, est une simple ignorance des causes? Ou une autre forme de logique. Je crois que là, au fond, il faut s'interroger sur les dates, mais le hasard comme ignorance des causes, ça nous réfère à une théorie de la causalité qui est celle de Laplace. Le contemporain de Flaubert, c'est pas Laplace, c'est Cournot. Et je crois que Flaubert radicalise la théorie des séries causales de Cournot. Vous savez, Cournot donc théorise au moment, il est contemporain directement de Flaubert, hein, le hasard comme la rencontre de deux séries causales indépendantes. Au fond, les événements en eux-mêmes sont tout à fait déterminés quant à leur cause et à leur effet. C'est leur rencontre imprévisible se traduit par l'intrusion d'une nouvelle causalité qui est indépendante du déroulement du processus et qui produit le hasard. On sait que les surréalistes vont en faire le fondement même du hasard objectif. Mais je crois que Flaubert a capté tout de suite l'importance de cette théorie de Cournot et qu'en même temps, il y ajoute une question qui est celle de son temps, mais qui pourrait être encore la nôtre. Est-ce que l'esprit peut développer des logiques causales agissant sur le réel? Est-ce que dans la logique des séries causales de Cournot, il ne faudrait pas ajouter, au-delà des choses strictement pragmatiques, matérielles, une logique de fluide, une logique de la matérialité de l'esprit qui agirait sur les corps? J'en prends pour preuve une lettre assez étonnante de coïncidence, de hasard, de superstition de Flaubert. Hier, en allant me faire arracher ma dent, j'ai passé sur la place du vieux marché où l'on exécutait autrefois, et en analysant l'émotion caponne que j'avais au fond de moi, il avait peur à cause de ça, je me disais que d'autres, à la même place, en avaient eu de pire et de même nature pourtant. L'attente d'un événement qui vous fait peur, cela m'a rappelé que tout enfant, à 6 ou 7 ans, en revenant de l'école, j'avais vu là une fois la guillotine qui venait de servir. Il y avait du sang frais sur les pavés et on défaisait le panier. Or, j'ai rêvé cette nuit la guillotine. Chose étrange, ma petite nièce, Caroline, ma petite nièce a rêvé aussi la guillotine cette nuit. La pensée est donc un fluide et qui découle des pentes les plus hautes vers les plus basses. Qui est-ce qui a jamais étudié tout cela scientifiquement, posément? C'est une lettre de 53 à Louise Collet. Au fond, de quelle nécessité inconnue, de quel mélange invisible est faite la singularité de notre rapport inscient au monde? Par quel mystère peut-on, sans le vouloir, déclencher la passion ou l'attirance des êtres apparemment les plus éloignés de soi? Voilà des questions qui relèvent de la même problématique. Comment la pensée circule-t-elle dans le vivant? Peut-on imaginer une expérience à la fois sensorielle et mentale par laquelle il deviendrait loisible, comme saint Antoine, de se confondre avec l'étendue, d'être la matière? Depuis les expériences fusionnelles qu'a connues Flaubert en Corse, il a lu Spinoza. Donc le panthéisme, pour lui, n'est pas dissociable de la puissance d'être, du conatus, et il, pour l'essentiel, sur l'essentiel, pardon, pour une subjectivité qui participe de plein pied à la nature naturante, au fond, il s'agit de se ressentir comme une parcelle d'énergie, c'est-à-dire de procéder à une conversion complète du regard qui doit conduire au sentiment de la nature. Cette question religieuse, cette question de la superstition, je crois, est indissociable de cette question du sentiment de la nature repensée par Flaubert. Par exemple, le sentiment de la nature, c'est accepter d'appartenir réellement au même monde que celui des bêtes, au même monde que celui des fous ou des idiots. Connaître, selon la connaissance du troisième genre, selon la connaissance de l'énergie à être, c'est bien voir, c'est traverser les fausses antinomies pour entrer en empathie avec ce qui est autre, et notamment avec l'aliéné. Une lettre à la Poitevin, assez forte de ce point de vue-là. Tu me dis que tu deviens de plus en plus amoureux de la nature. Moi, j'en deviens effréné. Je regarde quelquefois les animaux et même les arbres avec une tendresse qui va jusqu'à la sympathie. J'éprouve presque des sensations voluptueuses rien qu'à voir, mais quand je vois bien, il y a quelques jours, j'ai rencontré trois pauvres idiotes qui m'ont demandé l'aumône. Elles étaient affreuses, dégoûtantes de laideur et de crétinisme. Elles ne pouvaient parler. À peine si elles marchaient, quand elles m'ont vu, elles se sont mises à me faire des signes pour me dire qu'elles m'aimaient. Elles me souriaient, portaient la main sur leur visage et m'envoyaient des baisers. À Pont-l'Évêque, mon père possède un herbage dont le gardien a une fille imbécile. Les premières fois qu'elle m'a vu, elle m'a également témoigné un étrange attachement. J'attire les fous et les animaux. Est-ce parce qu'ils devinent que je les comprends? Parce qu'ils sentent que j'entre dans leur monde? Alors, les carnets de Flaubert, sa correspondance, font fourmi de considérations de ce genre et de références sur son rapport direct aux désordres mentaux, aux manifestations délirantes. Bien entendu, il s'agit d'une thématique d'époque. Flaubert, jeune, a beaucoup donné dans le frénétique et dans la folie. Mais enfin, aussi qu'il y a là une problématique très personnelle, beaucoup plus profonde que cela. Et la fascination de Flaubert pour les maladies mentales, le fait qu'il y consacre une très grande partie de sa vie par une attention très précise au métadiscours, au discours scientifique sur la folie, tout ça nous oblige à penser qu'il y a une relation fondamentale entre sa réflexion sur le sentiment religieux et sa réflexion sur la folie. Il y a là l'effet d'une auto-analyse, évidemment, mais il y a aussi un regard littéralement prophétique quand même sur l'analyse que les sciences de la psyché vont faire un peu plus tard de la question. Et je voudrais lire une lettre tout à fait renversante de ce point de vue-là sur les relations entre folie et religion telle que Flaubert l'analyse. C'est culmine toujours à l'Heurier de Chantepie, qui est une bonne correspondante, qui ne comprend probablement pas grand-chose à ce que tu racontes Flaubert, mais qui, pour Flaubert, est une destinataire formidable. C'est une triste histoire que celle de cette jeune fille, votre parente, devenue folle par suite d'idées religieuses, mais c'est une histoire commune. Il faut avoir le tempérament robuste pour monter sur les cimes du mysticisme sans y perdre la tête. Et puis, il y a dans tout cela, chez les femmes surtout, des questions de tempérament qui compliquent la douleur. Ne voyez-vous pas qu'elles sont toutes amoureuses d'Adonis? C'est l'éternel époux qu'elles demandent. Ascétiques ou libidineuses, elles rêvent l'amour, le grand amour. Et pour les guérir, momentanément du moins, ce n'est pas une idée qu'il leur faut, mais un fait, un homme, un enfant, un amant. Cela vous paraît cynique, mais ce n'est pas moi qui ai inventé la nature humaine. Je suis convaincu que les appétits matériels les plus furieux se formulent insciemment par des élans d'idéalisme, de même que les extravagances charnelles les plus immondes sont engendrées par le désir pur de l'impossible. L'aspiration éthérée de la souveraine joie. Et d'ailleurs, je ne sais, et personne ne sait, ce que veulent dire ces mots, âme et corps, où l'infini, où l'autre commence, nous sentons des forces et puis c'est tout. Le matérialisme et le spiritualisme pèsent encore trop sur la science de l'homme pour que l'on étudie impartiellement tous ces phénomènes. L'anatomie du cœur humain n'est pas encore faite. Comment voulez-vous qu'on le guérisse? Ce sera l'unique gloire du XIXe siècle que d'avoir commencé ces études. Le sens historique est tout nouveau dans ce monde. On va se mettre à étudier les idées comme des faits et à disséquer les croyances comme des organismes. Il y a toute une école qui travaille dans l'ombre et qui fera quelque chose, j'en suis sûr. Lisez-vous les beaux travaux de Renan? Connaissez-vous les livres de Lanfray, de Maury? Moi, dans ces derniers temps, je suis revenu incidemment à ces études psychomédicales qui m'ont tant charmé il y a 10 ans lorsque j'écrivais mon Saint-Antoine. À propos de Massalambo, je me suis occupé d'hystérie et d'aliénation mentale. Il y a des trésors à découvrir dans tout cela. Alors au fond, si Flaubert s'intéresse tant de son vivant à tout ce qui a formé les prémices de la science de la psyché, en préfigurant les recherches de Charcot sur l'hystérie, et puis les futures découvertes de Sigmund Freud, c'est évidemment par curiosité encyclopédique, par souci d'écrire en connaissance de cause, mais évidemment aussi pour des raisons personnelles. Plus encore que la cervelle des autres, c'est bien de la sienne, de ses propres bizarreries, que Flaubert entend faire un constant sujet d'étude. Et voilà, entre autres, les raisons pourquoi on trouve dans ses notes, dans ses lettres, dans ses œuvres, tant de récits de rêves, de références circonstanciées aux recherches contemporaines sur l'empire de l'hypnagogique. Et parmi beaucoup d'autres exemples, j'ai envie de citer un rêve qui est dans le voyage en Italie, 45. C'est au moment où Flaubert fait une halte à la Malque, il visite la maison de poète, et dans le jardin, il se retrouve nez à nez avec un petit singe qui le fixe dans les yeux. Et le regard de ce singe fait remonter à sa conscience le souvenir d'un rêve qu'il avait eu quelques semaines plus tôt. Alors, qu'est-ce que Flaubert pense du contenu latent de ce rêve qui va mettre en scène sa mère? On va le voir. Qu'est-ce qu'il pense de ce rêve qui dénonce chez lui l'animalité? Et qui parle de meurtre aussi. Il y a quelque chose comme de la tendresse panthéistique qui est donnée comme conclusion. Mais il reste que ce rêve va revenir 30 ans plus tard, très clairement, dans l'écriture de Saint-Julien, dans la chasse impossible de la deuxième partie de Saint-Julien, la deuxième partie de Saint-Julien, et qu'on a presque là un scénario proche de cette scène qui précède le parricide dans Saint-Julien. Je lis le texte du carnet. La Malque, habitation de poète, les roses dans le jardin, le petit singe. Je ne sais jamais si c'est moi qui regarde le singe ou si c'est le singe qui me regarde. Les singes sont merveilleux. Les singes sont nos aïeux. Il y a environ 3 semaines, j'ai rêvé que j'étais dans une grande forêt, toute remplie de singes. Ma mère se promenait avec moi. Plus nous avancions, plus il y en avait. Il y en avait dans les branches qui riaient et sautaient. Il y en avait beaucoup dans notre chemin, et de plus en plus grands, et de plus en plus nombreux. Ils me regardaient tous. J'ai fini par avoir peur. Ils nous entouraient comme dans un cercle. On va retrouver ça dans Saint-Julien directement. Un a voulu me caresser et m'a pris la main. Je lui ai tiré un coup de fusil à l'épaule et je l'ai fait saigner. Il a poussé des hurlements affreux. Ma mère m'a dit alors, « Pourquoi le blesses-tu, ton ami? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ne vois-tu pas qu'il t'aime? Comme il te ressemble. » Et le singe me regardait. Cela m'a déchiré l'âme et je me suis réveillé, me sentant de la même nature que les animaux et fraternisant avec eux d'une communion toute panthéistique et tendre. Alors, ce panthéisme, au fond, est quand même au cœur de notre question. Et on se souvient que, tout incroyant qu'il est, Flaubert, en appelle à Dieu, quand même, quelquefois. Et dans le carnet d'Afrique, quand le carnet de préparation de Salammbô, vous savez, on le recite juste pour le plaisir, tellement c'est beau quand même, les dernières lignes qui sont écrites comme une sorte d'exhortation personnelle que Flaubert se donne, que toutes les énergies de la nature que j'ai aspirées me pénètrent et qu'elles s'exhalent dans mon livre, à moi puissance de l'émotion plastique, résurrection du passé, à moi, ben, s'il n'y a pas un peu de Michelet là-dedans, il faut faire, à travers le beau, vivant et vrai quand même, pitié pour ma volonté, Dieu des âmes, donne-moi la force et l'espoir. C'est dans la nuit de samedi 12 au dimanche 13 juin 58 à minuit. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Dieu des âmes? Et au-delà des superstitions, des légitimes ambitions de plonger dans l'inconnu que Flaubert manifeste pour aller chercher du nouveau, est-ce que Flaubert était croyant? Qu'est-ce que c'est que la croyance? Et quelle place il donne à la transcendance? Je crois qu'il faut être tout à fait clair, parce que dans les débats que nous avons avec nos amis allemands fractales, les choses ne le sont pas complètement, je crois. Flaubert était incroyant. Par ses origines, par ses convictions, Flaubert appartient à une famille de médecins où les hommes se déclarent agnostiques, ou même athées, et en tout cas anticléricaux et voltairiens. Flaubert ne partage pas toutes les idées de sa famille. Et par exemple, la posture d'esprit fort lui convient très mal et lui paraît ridicule. Mais quant au groupe d'artistes, d'amis, d'intellectuels avec lesquels il vit, dont Flaubert au cours de sa vie fait ses amis et ses proches, il n'y a quasiment pas d'exception, ils sont tous dans le camp de la croyance. Tous. Et ses ennemis sont tous catholiques, fondamentalistes. Les coups du sort, les deuils, les pires adversités n'y changent rien. Flaubert reste fidèle d'un bout à l'autre de sa vie à sa position de libre penseur, sans jamais cacher sa méfiance à l'égard des églises et des dogmes, ni faiblir dans son hostilité contre toute forme d'aliénation ou d'infériorisation de l'esprit à une vérité révélée. D'ailleurs, Flaubert ne cache rien de ses convictions, même quand ça peut coûter de ne pas cacher. « Monsieur de Voltaire, c'est pour moi un saint, voilà ce qu'il dit. Son écrasant l'infâme me fait l'effet d'un cri de croisade. » Il dit ça à la manger des jeunettes. Il admire son vieux Bouillet qui, sur son lit de mort en 69, écrit un dernier drame vengeur contre l'Inquisition, juste avant de mourir, dans les secondes, dans les minutes qui précèdent, et puis qui envoie promener ses sœurs catholiques qui étaient venues lui faire un scandale parce qu'elles voulaient qu'il reçoive le Saint-Sacrement. Et en 76, il trouve absolument magnifique la dignité avec laquelle Georges Sand, mourante, refuse de recevoir les prêtres, et il se scandalise quand la famille, les amis bien-pensants, décident quand même, malgré sa volonté, de l'enterrer religieusement. Je cite, « Oui, l'autre samedi, à l'enterrement de Georges Sand, j'ai éclaté en sanglots, en embrassant la petite Aurore, puis en voyant le cercueil de ma vieille amie. Les journaux n'ont pas dit toute la vérité, la voici. Madame Sand n'a reçu aucun prêtre, et est morte parfaitement impénitente. Mais Madame Clésinger, par chic, a télégraphié à l'évêque de Bourges pour demander des obsèques catholiques. L'évêque s'est empressé de répondre oui. Maurice, qui est maire du pays, a craint de faire scandale. Mais je suspecte le docteur Favre et le bon Alexandre Dumas d'avoir fortement contribué à cette bassesse ou convenance. Donc, on le voit, c'est une position claire, nette, absolument définitive. Et là, c'est dans la même lettre, et c'est ça qui est tout le paradoxe, dans cette même lettre à Madame Roger Desgenais de juin 76, que Flaubert donne le résumé d'un cœur simple, en disant, c'est l'histoire d'une pauvre fille mystique, dévote, mais mystique, qui confond le perroquet avec le Saint-Esprit, cela n'est nullement ironique, comme vous le supposez, mais au contraire très sérieux et très triste. Et puis, quelques lignes plus loin, il récapitule l'état de son travail littéraire à ce moment. C'est un récapitulatif quand même assez accablant pour un libre penseur, puisqu'il dit « Connaissez-vous les Fioretti de Saint-François ? Je vous en parle parce que je viens de me livrer à cette lecture édifiante, et à ce propos, je trouve que si je continue, j'aurai ma place parmi les pères, les lumières de l'Église. Je serai une des colonnes du Temple, après Saint-Antoine, Saint-Julien, et ensuite Saint-Jean-Baptiste. Je ne sors pas des saints. » Et c'est le même Flaubert, un croyant, agnostique, qui écrit la même année, en 76, à Madame Régnier, « Je ne serai pas à Paris avant les premiers jours de février, avant d'arriver là-bas avec mon Yokohama presque terminé. Il est minuit moins le quart, et je vais me revêtir pour aller à la messe, dans un petit couvent religieux près d'ici. » Quelle vie romantique, hein ? Voilà, alors Flaubert n'est pas croyant, mais l'instinct humain de la transcendance le fascine, et au fond de tous les romanciers de sa génération, il n'y en a probablement pas un qui ait consacré autant d'énergie intellectuelle à penser le fait religieux, à penser la croyance, les rites, en développant une véritable mystique de la sacro-sainte littérature. Il y a une lettre assez forte, je trouve, que je vais lire à Laurier de Chantepie. Je suis né à l'hôpital et j'ai grandi au milieu de toutes les misères humaines dont un mur me séparait. Tout enfant, j'ai joué dans un amphithéâtre. Voilà pourquoi, peut-être, j'ai les allures à la fois funèbres et cyniques. Je n'aime point la vie et je n'ai point peur de la mort. L'hypothèse du néant absolu n'a même rien qui me terrifie. Je suis prêt à me jeter dans le grand trou noir avec placidité. Et cependant, ce qui m'attire par-dessus tout, c'est la religion. Je veux dire, toutes les religions, pas plus l'une que l'autre. Chaque dogme en particulier m'est répulsif. Mais je considère le sentiment qui les a inventés comme le plus naturel et le plus poétique de l'humanité. Je n'aime point les philosophes qui n'ont vu là que jonglerie et sottise. J'y découvre moi nécessité et instinct. Aussi je respecte le nègre baisant son fétiche, autant que le catholique au pied du Sacré-Cœur. C'est donc pour Flaubert quelque chose comme une répulsion envers ce que chaque dogme singulier contient de prétention à détenir la vérité, mais d'un autre côté, c'est une attirance. Une attirance tout aussi puissante pour ce que le religieux, sous toutes ses formes, révèle d'instinct poétique vers une sublimation du réel. Les dogmes, les dévotions, dans le détail de leurs rituels et l'aveuglement de leurs intolérances, sont généralement immondes et répugnants d'ineptie. Mais leur monstruosité fait précisément qu'ils sont souvent surprenants, par leur extravagance, proches des configurations délirantes, inhumains, grotesques, au point d'en devenir admirables et dignes, par conséquent, comme la bêtise, de l'attention la plus approfondie. Pour Flaubert, et c'est sensible au moment où il, encore, c'est en 79, 80, quand il travaille sur le chapitre religion de Barbé Cuchet, il y a dans cette ignominie un intérêt tout à fait fondamental. Depuis 3 mois, je ne lis que des livres de dévotion moderne. Aujourd'hui, j'ai expédié le manuel des jeunes communions, où il y en a des raids. Avez-vous commis des actes déshonnêtes avec des animaux, etc. Ce qui est peut-être un souvenir de ce passage de la Mishnah, il n'est pas bon à l'homme prudent de rester seul avec un animal, surtout si c'est un quadrupède. Je vous assure que je suis un peu plus qu'un amateur, eh bien, le cœur me saute de dégoût. Pie IX, le martyr du Vatican, aura été funeste au catholicisme. Les dévotions qu'il a patronnées sont hideuses. Sacré-Cœur, Saint-Joseph, entrailles de Marie, Salette, cela ressemble au culte d'Isis et de Bélone dans les derniers jours du paganisme. Il y a donc une face obscure du religieux, où la diversité inouïe des rituels, par-delà les cultures et les millénaires, finit par se confondre dans une même abomination. Et il y a le côté lumineux de la croyance, celui du sentiment religieux, l'instinct poétique dans toutes les religions, dont toutes les religions ne sont que les avatars circonstanciels, l'aspiration humaine à l'idéal qui est, selon Flaubert, de même nature que celle qui hante les artistes. Ce sentiment religieux, Flaubert l'assimile radicalement et de façon nullement négative à la superstition, précisément. La superstition qu'il pose comme le principe même de la foi. Si la religion peut se définir comme une philosophie devenue art, cette fiction de vérité qui l'anime est universelle. Par-delà les différences qui semblent les opposer, les religions attendent le savant qui sera capable de reconstituer dans sa logique unitaire l'histoire naturelle de toutes les croyances. Et là, Flaubert raisonne comme Balzac. Qui est-ce qui a généralisé les religions? Geoffroy Saint-Hilaire a dit « le crâne est une vertèbre aplatie ». Qui est-ce qui a prouvé, par exemple, que la religion est une philosophie devenue art et que la cervelle qui bat dedans, à savoir la superstition, le sentiment religieux en soi, est de même matière partout, malgré ses différences extérieures, correspond aux mêmes besoins, répond aux mêmes fibres, meurt par les mêmes accidents? La superstition n'est pas une simple crédulité. Elle n'est autre que le sentiment religieux en soi, la propension à développer du transcendant dans l'immanence. Et voilà pourquoi Flaubert ne s'excuse pas du tout d'être superstitieux à ses heures, dans la vie quotidienne. C'est la même superstition qui, à une autre échelle, fonde dans l'équation supérieure entre religion, sentiment du sacré et création artistique. Le religieux, comme l'art, est une sorte de double magnifié de la vie. Son image glorieuse inversée dans un miroir, un mirage qui ressemble donc à la vie, mais aussi comme son contraire, et au fond tout est là. Si le bonheur, c'est-à-dire, discutons pas, si le désir, le plaisir physique, si l'amour sans entrave, si le plaisir sans limite existait dans le réel, il n'y aurait pas de religion, il n'y aurait pas d'art, pour Flaubert. C'est ce que Flaubert explique à la malheureuse Louise Collet dès les premières rencontres. Quand je parlais du mythe de l'amour chez Platon, au début, je voulais dire à quel point je crois que toutes ces questions théoriques sont... Flaubert en est absolument conscient, et la psychanalyse le dira d'une autre façon... sont en connexion directe avec l'énergie sexuelle. Oui, j'aimerais à me rendre malade de toi, à m'en tuer, à m'en abrutir, à n'être plus qu'une espèce de sensitive que ton baiser seul ferait vivre. Il dit ça donc à Louise. Pas de milieu, la vie, et c'est là la vie. Aimer, jouir. Eh bien, quelque chose qui en a l'apparence, ou bien, quelque chose qui en a l'apparence et qui en est la négation, c'est-à-dire l'idée. La contemplation est l'immuable, et pour dire tout par un mot, la religion, dans sa plus vaste extension. Je trouve que tu en manques trop, mon amour. Mais je veux dire qu'il me semble que tu n'adores pas beaucoup le génie, que tu ne tressailles pas jusque dans tes entrailles à la contemplation du beau. Ce n'est pas tout que d'avoir des ailes, il faut qu'elles vous portent. Un de ces jours, je t'écrirai une longue lettre littéraire. Aujourd'hui, j'ai fini Sakuntala, l'un de mes bouillies, c'est superbe. Les études que j'ai faites cet hiver sur le brahmanisme n'ont pas été loin de me rendre fou. Il y avait des moments où je sentais que je n'avais pas bien ma tête. L'art, parce que l'amour, la jouissance permanente est impossible. En même temps, il y a l'idée qu'il y a là profonde illusion. Comme Marx, Flaubert croit que la religion est un opium, un alcool violent, dont on se saoule pour oublier les misères de la vie réelle, du monde. Mais, à la différence de Marx, Flaubert parie pour l'idéal contre le monde réel. Sans la moindre illusion quant à l'existence d'un autre monde, si ce n'est celui fictionnel de l'art, plus inaccessible peut-être encore que celui de la foi. Moi aussi, je voudrais être un ange. Je suis ennuyé de mon corps, et de manger, et de dormir, et d'avoir des désirs. J'ai rêvé la vie des couvents, les ascétismes, des brahmanes. C'est ce dégoût de la guenille qui a fait inventer les religions. Les mondes idéaux de l'art, l'opium, le tabac, les liqueurs fortes, flattent ce penchant d'oubli. Ou si je tiens de mon père une sorte de pitié religieuse pour les ivrognes, j'ai comme eux la ténacité du penchant et les désillusions au réveil. Oui, oui, ça va être beaucoup trop long, mon truc, là.
Maximum 15, hein, parce que
Je vais quand même lire cette lettre-là qui va pas du tout nous faire perdre de temps. Il y a donc une empathie, sans illusion, de la part de Flaubert, une empathie tout de même pour cette superstition à laquelle nous sommes condamnés. Nous sommes condamnés à l'opacité du réel et simultanément, nous pouvons développer une horreur envers tout ce que les cultes drainent de ressentiments, de préjugés, de carcan pour l'esprit. C'est dans cette dialectique qu'il me semble que Flaubert se situe. Alors comment s'est située s'est fabriquée cette dialectique entre une haine du dogme, du rite et une sorte de passion pour le sentiment religieux qui va être converti en énergie artistique? C'est dans l'épreuve tragique que les choses de la vie, c'est-à-dire de la mort, que les choses à plusieurs moments de l'existence de Flaubert se sont construites. Il y a une lettre qui est parfaitement fondamentale, je crois, celle qu'il écrit à Ducamp, très peu de temps après la mort de sa sœur et de son père, au moment où il vient de baptiser sa nièce, Caroline. Et il fait allusion à quelque chose qui est presque un concept, je pense, qu'on pourrait conserver pour comprendre Flaubert, le concept de la mémoire des pierres. Je cite la lettre. On dit que les gens religieux endurent mieux que nous les maux d'ici-bas. Mais l'homme convaincu de la grande harmonie, celui qui espère le néant de son corps, en même temps que son âme, retournera dormir au sein du grand tout pour animer peut-être le corps des panthères, ou briller dans les étoiles. Celui-là non plus n'est pas tourmenté. On a trop vanté le bonheur mystique. Cléopâtre est morte aussi sereine que saint François. Je crois que le dogme d'une vie future a été inventé par la peur de la mort, ou l'envie de lui rattraper quelque chose. C'est hier que l'on a baptisé ma nièce, l'enfant, les assistants, moi, le curé lui-même, qui venait de dîner et était empourpré, ne comprenaient pas plus l'un que l'autre ce qu'ils faisaient. En contemplant tous ces symboles insignifiants pour nous, je me faisais l'effet d'assister à quelques cérémonies d'une religion lointaine, exhumée de la poussière. C'était bien simple et bien connu, et pourtant, je n'en revenais pas d'étonnement. Le prêtre marmottait au galop un latin qu'il n'entendait pas. Nous autres, nous n'écoutions pas. L'enfant tenait sa petite tête nue sous l'eau que l'on lui versait. Le cierge brûlait et le bedeau répondait « Amen ». Ce qu'il y avait de plus intelligent à coup sûr, c'était les pierres. Qui avait autrefois compris tout cela et qui peut-être en avait retenu quelque chose. Alors, je crois que cette question de la mémoire des pierres, au fond, traverse tout le rapport de Flaubert à la croyance. On pourrait synthétiser, je passe sur, sur beaucoup d'autres fractures dans sa vie qui seraient à verser au dossier de cette construction d'une théorie du sentiment religieux dans l'athéisme. Mais je crois que ce qui en fait la logique fondamentale, c'est cette mémoire des pierres, dont au fond, le symbole littéraire va être l'outil. À un certain moment de sa réflexion, Flaubert en vient à l'idée qu'il n'y a pas d'avenir pour le sentiment religieux sans une extermination des dogmes religieux. Pour se débarrasser du fanatisme, il faut dresser contre lui la force d'un autre fanatisme. À la théorie de la superstition et du sentiment religieux s'ajoute une théorie du fanatisme qu'on n'aura pas le temps de développer là, mais qu'il est important de garder à la mémoire. Ce que le sentiment religieux va donner à l'instinct et à l'énergie créatrice va s'accompagner de cette exigence. Le sentiment artistique doit être un sentiment fanatique. Pour se débarrasser du fanatisme, il faut dresser contre lui la force d'un autre fanatisme. Et c'est la raison impérieuse pour laquelle Flaubert admire Voltaire. Il admire comme on peut admirer une arme à feu ou une pièce d'artillerie, c'est-à-dire pour sa précision, sa longue portée, sa puissance d'impact. Il admire que Voltaire, à l'inverse de son siècle qui était incrédule, ait su croire que la religion et la foi ne sont pas des enfantillages, mais au contraire des puissances redoutables contre lesquelles il s'agit de mobiliser toutes les forces de l'esprit dans un combat à mort. Vous savez bien que je ne partage nullement votre opinion sur la personne de Monsieur de Voltaire. C'est pour moi un saint. Pourquoi s'obstiner à voir un farceur dans un homme qui était un fanatique? Monsieur de Maistre a dit de lui, dans son traité des sacrifices, « Il n'y a pas de fleur dans le jardin de l'intelligence que cette chenille n'a souillée. Je ne pardonne pas plus cette phrase à Monsieur de Maistre que je ne pardonne tout leur jugement à Messieurs Stendhal, Veuillot, Proudhon. C'est la même race quinteuse et anti-artiste. Je m'étonne que vous n'admiriez pas cette grande palpitation qui a remué le monde. Est-ce qu'on obtient de tels résultats quand on n'est pas sincère? Vous êtes dans ce jugement de l'école du XVIIIe siècle lui-même qui voyait dans les enthousiasmes religieux des momeries de prêtres. Inclinons-nous devant tous les autels. Bref, cet homme-là me semble ardent, acharné, convaincu, superbe. Son écrasant l'infâme me fait l'effet d'un cri de croisade. Toute son intelligence était une machine de guerre. Et ce qui me le fait chérir, c'est le dégoût que m'inspirent les voltairiens, des gens qui rient sur les grandes choses. Est-ce qu'il riait, lui? Il grinçait. Donc pour Flaubert, quoi qu'il advienne, c'est celui qui passe aux extrêmes qui aura toujours le dernier mot. Flaubert en arrive à penser que le principe même de la croyance, ce qu'il appelle aussi la superstition, n'est finalement rien d'autre que le fanatisme. Flaubert déteste la littérature engagée, mais il rêve d'un art qui serait capable de métamorphoser la planète et d'engendrer une humanité capable de vivre dans le bleu, dans l'idéal, demain ou dans 10 000 ans. Qu'importe. Or, qu'est-ce qui change la face du monde? Qu'est-ce qui mobilise les masses, qui entraîne les cultures vers de nouveaux horizons, si ce n'est l'exaltation, la fièvre, la fureur? Donc le fanatisme de l'art, est la seule façon logique de sortir par le haut de l'antinomie entre adhésion au sentiment religieux et répulsion pour la hideur des dogmes. On ne fait rien de grand sans le fanatisme. Le fanatisme est la religion. Et les philosophes du XVIIIe siècle, en criant après l'un, renversaient l'autre. Le fanatisme est la loi, la foi même, la foi ardente, celle qui fait des œuvres et agit. La religion est une conception variable, une affaire d'invention humaine, une idée enfin, l'autre, un sentiment. Celui qui a changé sur la terre, ce sont les dogmes. Les histoires des Vishnous, Hormuz, Jupiter, Jésus-Christ. Mais ce qui n'a pas changé, ce sont les amulettes, les fontaines sacrées, les ex-voto, les brahmanes, les santons, les ermites, la croyance enfin à quelque chose de supérieur à la vie, et le besoin de se mettre sous la protection de cette force. Dans l'art aussi, c'est le fanatisme de l'art qui est le sentiment artistique. Alors, je crois qu'on peut conclure en disant que Flaubert est donc un vrai mystique. Ça ne fait pas de doute, un mystique de l'immanence. Que sa conception du sacré ne puisse s'accomplir dans l'écriture, au fond, que par une néantisation de Dieu et de tout ce qui n'est pas l'art, c'est ce qu'il avoue, sans beaucoup de peine, quand il constate « je suis mystique au fond et je ne crois à rien ». Cette mystique, qui crée une communauté très restreinte, celle de l'art, repose sur un non serviam, je ne servirai pas, aussi définitif que celui de Lucifer. C'est un pacte avec le diable. Un non serviam, une autonomie radicale qui ne développe pas plus de tendresse pour Dieu que pour le genre humain. Je cite, « L'humanité nous hait, nous ne la servons pas et nous la haïssons, car elle nous blesse. Aimons-nous donc en l'art, comme les mystiques s'aiment en Dieu. » Et c'est ce « nous » du symbole, ce « nous » de la société secrète, elle est vraiment l'exclusion de la majorité. Quant à la postérité, c'est pas trop la peine d'y voir un succès d'année de l'immortalité de l'âme. S'il faut écrire pour aussi longtemps que la langue vivra, ça doit être sans aucune illusion, puisque, je cite, « la célébrité la plus complète ne vous assouvit point, et l'on meurt presque toujours dans l'incertitude de son propre nom, à moins d'être un sot. » Je vais m'arrêter là.
Je te remercie. Très belle citation, très belle fin, très belle communication. Merci beaucoup. Pardon de t'avoir
bouclé. Non, je réserverai pour la discussion d'éventuels...
Voilà, tout était passionnant, mais on a...
Exemple.
Matinée, la remarque, discussion... Gisèle Sajagé.
De la pensée, il dit Louis Lambert, je pense. Je ne sais pas si je suis d'accord. Est-ce que ça ne viendrait pas de Louis Lambert?
En tout cas, il y a cette célèbre lettre où il écrit à Louise. Je t'écris pour pas être tout seul dans le noir. Je viens de finir Louis Lambert. Je suis comme poudroyé, etc. Oui, bien sûr. Ben, je crois que là, le poids de Balzac est considérable. Oui. Le poids de l'illuminisme aussi, sûrement. Mais en même temps, je crois qu'il ne partage pas avec Balzac ce qui appartiendrait au dogme, quoi, de ses croyances illuministes. C'est ça. Quant à l'énergie, là, je crois qu'il est très, très balzacien. Ouais. Enfin, je suis d'accord avec toi. Non, je voulais faire suivre cet exposé de quelques cas d'analyse des processus symboliques dans l'écriture de Saint-Julien. Mais là, vraiment, ça va pas être possible. Quoi. Parce que tout ce que j'ai essayé de montrer du côté de la conversion du sentiment religieux en énergie de création, on peut en voir la manifestation technique dans l'écriture, et les brouillons nous y aident beaucoup.
Tu pourrais peut-être en donner quelques aperçus.
Oui, ben c'est c'est un petit peu du détail, hein, mais non, il s'agit de démonstrations, donc c'est peut-être pas très facile à résumer.
Il y a ton article sur le non finito qui donne un petit peu une perspective.
Peut-être justement
Cécile Maté
ce rêve avec le singe, hein, qui a l'air, et là où évidemment on retrouve Saint-Julien, on pense aussi Donc justement, peut-être là-dessus, on pourrait entrer dans le détail. Ce qui me frappe, c'est ce refus, justement, du héros d'entrer en relation, malgré justement l'insistance de l'animal, malgré l'appel en somme de la nature. C'est valable, évidemment, bien sûr, avec Saint-Julien.
Enfin, Saint-Julien, je crois que c'est vrai. Oui. Enfin, Saint-Julien, c'est vraiment un montage précisément. C'est une sorte de testament hein, de Flaubert, les trois contes, puisque ça sera la dernière œuvre publiée de son vivant. Et avec Saint-Julien, on a affaire à une écriture qui est surdéterminée psychologiquement. C'est un texte qu'il a voulu écrire il a 14 ans, puis à nouveau plusieurs fois au cours de sa vie. Et qu'au fond, il n'a pu écrire qu'après la mort de sa mère, et à un moment où lui-même était tenté par le suicide, en 75, où ça allait tellement mal. Quoi. Donc c'est un texte surdéterminé de ce point de vue-là, qui va en même temps être une expérience d'écriture qui va le sauver, c'est-à-dire qui va lui faire sortir entièrement de ce marasme pour le reconstituer psychologiquement. Donc je crois que l'enjeu est quand même beaucoup plus complexe et plus lourd dans la légende que dans la première éducation. Mais là où se pose la question des relations aux bêtes, quoi, aux animaux, et ça traverse bien sûr tout, à la fois la correspondance, les œuvres, etc. La position de Flaubert est un peu la même que celle du rapport à la folie. C'est-à-dire que la fusion, ça serait une expérience dionysiaque de rapport au réel, qui pourrait se perdre, tout simplement. Et le recul devant le rapport une proximité trop intense avec la nature ou le monde animal. C'est qu'au bout de cette expérience, il y a l'anéantisation de soi. Il y a un rapport fusionnel qui est l'expérience de Dionysos, c'est-à-dire l'écartèlement. C'est le corps dispersé aux quatre coins de l'univers. Et aussi, chez Flaubert, cette présence permanente de la dialectique d'Apollon et Dionysos, c'est-à-dire que tout ça, de toute façon, n'a de sens que si, quelque part, une instance est capable d'en rendre raison. Et sans le recul d'Apollon, sans ce moment de conscience froide qui est celle du calculateur, c'est-à-dire celle du scénariste, celui qui va pouvoir faire le scénario, toutes les expériences les plus intenses à la fois vous menacent de déperdition et ne sont pas transmissibles. Son rapport à la folie est aussi du même ordre. Je crois qu'il y a, d'ailleurs, c'est ce que j'essaierai de raconter dans le livre que je vais publier chez Grasset à la rentrée en septembre, qui sera une sorte de biographie un peu bizarre de Flaubert, qui s'appellera « Une manière spéciale de vivre ». J'essaie de démontrer que c'est dans sa maladie que les principales ressources théoriques de l'écriture qu'il invente, la poétique de la personnalité, de l'impersonnalité notamment, est une conclusion, est la conclusion d'un rapport d'autothérapie. Je suis de plus en plus persuadé de ça. La question majeure, celle qui est du rapport aux fous, du rapport aux bêtes, ou aux idiots, appartient à la même logique. Une logique qu'on verra à nouveau chez Rimbaud, avec une intensité aussi grande.
Je souhaiterais que tu reviennes sur l'idée du nous. C'est-à-dire que tu as posé en entrée que Religio, c'est le lien pour fabriquer du sens avec du nous. Le symbole, c'est le lien avec un nous de l'art restreint. Et en même temps, il y a ce nous de Bovary. Au début, est-ce que tu vois
Oui, là aussi, c'est quand même une longue démonstration à faire, mais que j'ai essayé de faire dans le livre dont je parlais à l'instant, là, qui sortira à la rentrée. Toute la question, si on s'intéresse à la croyance, si on est, comme Flaubert, convaincu que la croyance est l'objet même de la littérature, comme la religion, alors on s'intéresse forcément au nous. Qu'est-ce que c'est que la croyance? C'est ce qui fait du nous. Des nous, il y en a de toutes sortes. La première forme de nous, c'est celle de la génération. C'est celle de l'école, par exemple. Nous, la génération des jeunes romantiques, par exemple. C'est évidemment de cela qu'il est question dans le nous de l'incipit, du premier mot de l'incipit de Madame Bovary. Nous étions à l'étude. Ce nous qui a un destin tellement étrange dans le manuscrit et dans le texte de Bovary, qui est posé en exergue, qui est posé en position stratégique. C'est le premier mot du premier texte publié par Flaubert. C'est pas tout à fait rien. Et c'est une décision, comme vous le savez, d'écriture qui intervient in extremis, puisque le nous est placé là au moment des corrections sur le manuscrit du copiste, comme d'ailleurs l'incipit fameux de Proust sera inventé in extremis au moment des corrections des preuves. Alors, ce nous de Bovary est un nous de guerre. C'est-à-dire que c'est le nous que Flaubert pose là pour dire à la fois sa responsabilité. Nous, ça intègre le jeu, nécessairement. Le narrateur est coincé dedans. Sa responsabilité et aussi la liberté que l'écriture lui donne de s'extraire de ce nous. On peut expliquer la présence de ce nous tout à fait étrange de la part d'une écriture qui décrète la personnalité. Cette présence insistante et même aveuglante, affichée de ce nouveau début de Bovary et sa disparition en 6 pages. Il y a une dizaine d'occurrences, du nous, nos, notre, etc. Et puis une disparition par passage à la trappe, sous la forme d'une aporie qui est « Il serait impossible à aucun de nous aujourd'hui de dire ce qu'il est advenu de... » Alors toute l'histoire va être justement celle de Charles. Cette aporie, cette disparition, cette sorte de scénario de présentification et de passage à la trappe du nous, je crois que c'est la mise en scène d'une sorte de règlement de compte avec le nous de la société industrielle et romantique à laquelle Flaubert appartient. Vous savez que la décision d'écrire « nous » en première place de Madame Bovary est prise au moment même où Flaubert, finissant les dernières lignes du texte, décide de ne plus envoyer la petite Berthe à l'école gratuite, mais à l'usine, à 12 ans. C'est au moment où il décide donc d'aggraver très lourdement le destin social de son héroïne, enfin de la rescaper, quoi, hein, puisqu'elle est orpheline. Il ne l'envoie plus à l'école gratuite, c'était pas déjà un beau destin d'aller à l'école gratuite à l'époque, mais là il l'envoie carrément à la fabrique, quoi, à l'usine, à 12 ans. Et c'est collé à l'idée que Homais triomphe. Et ce geste d'aggravation sociale du destin de la rescapée va de pair avec un retour à l'initiale de l'écriture du roman et à la position du nous. nous, amateurs de Byron, capables à 12 ou 13 ans d'écrire déjà des textes de littérature, nous avons fabriqué une société qui envoie les enfants à l'usine. Voilà, en gros.
Merci. Encore une question, Loïc Vendel. On continuera peut-être tout à l'heure à discuter. Donc on te remercie beaucoup, c'était vraiment passionnant. Et on s'arrête 5 minutes.